Bonjour Tiffaine, très bon après-midi à vous.
La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Sa silhouette ronde, sa lèvre lipue sont légendaires et sans doute déterminantes pour aborder sa psychologie. Alfred Hitchcock s'est très jeune trouvé monstrueux et ce physique disgracieux a sans doute rendu difficile son entrée dans la vie. Du temps du pensionnat jésuite où ses camarades se moquaient de lui et où il s'était vengé cruellement en glissant un pétard allumé dans le pantalon d'un camarade. La personnalité de ce grand angoissé François Rivière nous en a donné les grands traits lundi au cours d'une émission à retrouver sur notre site. Mardi, nous avons cherché à caractériser les films d'Hitchcock. Nous avons parlé de son art du suspense, bien sûr, mais aussi du caractère freudien de son œuvre ou encore de ses grands films Fenêtre sur cour et Les oiseaux. Enfin, hier, c'est à une approche philosophique d'Hitchcock que nous nous sommes essayés en compagnie de Laurent Von Eynde, auteur de Vertige de l'image aux presses universitaires de France. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour parler des 4 livres au moins qu'elle a publiés sur son cinéma aux éditions de l'Harmattan, nous sommes en compagnie de Lydie Decobert. Ses livres, ce sont L'escalier dans le cinéma d'Alfred Hitchcock en 2008, et puis aussi un triptyque, 3 essais, l'un sur la poétique de l'objet chez le cinéaste en 2013, et puis aussi un livre sur la corde musicale d'Hitchcock en 2015, et enfin la peinture à l'œuvre dans le cinéma d'Alfred Hitchcock, c'était en 2018. Bienvenue à tous, voici la compagnie des œuvres.
L'escalier chez lui, et Dieu sait s'il y en a, est un escalier qui est beau davantage descendu que monté. Les descentes de personnages d'escalier dans les films, par exemple, prenons celui de Notorious, l'admirable moment où Ingrid Bergman accompagné par Cary Grant descend l'escalier pour se sauver de l'emprise des nazis, ou d'autres films, c'était pas ça qui manque chez Hitchcock, on s'aperçoit que il y a chez lui justement l'idée de descente, l'idée de la peur, mais aussi d'une certaine façon de l'excitation de cette descente, et que cela va se développer dans une conception beaucoup plus générale, beaucoup plus signifiante dans l'ensemble même de son œuvre.
Et cet archive de Jean Doucher pour commencer notre émission. Bonjour Lydie Decobert.
Bonjour.
On parle toujours du suspense chez Hitchcock, on en a beaucoup parlé ici depuis le début de la semaine, mais à vous lire, on se demande s'il n'y a pas plus d'escalier que de suspense dans ces films, si ce n'est pas au fond plus important de parler de l'escalier que du suspense. Comment est-ce que vous vous êtes intéressé à ce motif très précis de l'escalier chez lui ?
Bon, déjà pour répondre par rapport au suspense, il faut bien reconnaître que l'escalier est un élément architectural en suspens. C'est amusant parce que le mot suspense, bon, vous savez que c'est un anglicisme le mot existe d'abord en France, il part en Angleterre, il revient ensuite sous la forme de suspense. Alors cet élément architectural suspendu, c'est vraiment idéal pour, on va dire, concrétiser toutes les terreurs et notamment la dynamique. Alors l'escalier, c'est vrai que c'est un élément du décor expressionniste, important, mais ce qui est novateur, c'est que Hitchcock va en faire un processus. Alors un processus de montée, mais aussi de descente, comme le signale Jean Doucher, vers l'effroi. Alors, pour Jean Doucher, je me permets de rebondir, je suis d'accord pour dire que c'est très dangereux, très risqué de prendre un escalier pour monter. et que ça se passe plutôt en descente au niveau de la terreur. Mais en même temps, il y a des allées-venues totalement angoissantes, des montées suivies de descentes. Bon, il fait allusion à Notorious, cette fabuleuse séquence où Gary Grant s'introduit chez les nazis et descend l'héroïne, voilà, en menaçant d'un revolver caché dans sa veste, Alexander Sebastian et sa mère. Mais en même temps, qu'est-ce qui se passe une fois qu'il est descendu? L'espion ne peut pas les suivre et il y a une remontée justement du personnage vers la mort. Et ça, c'est quand même une allée et venue importante. D'accord, il y a une descente, mais cette remontée, lui, est fatale et c'est terrifiant.
Alors, il faut que vous nous expliquiez quand même, Lydie de Cobert, d'où vient profondément pour vous cette fascination pour l'escalier qui remonte chez vous à l'enfance. Il y a peut-être quelque chose aussi de psychanalytique de votre côté, comme il y a de la psychanalyse dans les films d'Hitchcock.
Oui, alors, ça remonte à l'enfance parce que je passais de nombreuses heures assises dans les escaliers chez ma grand-mère à attendre.
Vous étiez en suspens.
J'étais en suspens, c'est tout à fait ça, en suspens. Et donc, c'est vrai que les termes montée, descendre, la rampe, la sinuosité, marcher dans l'escalier, monter, prendre l'escalier en marche aussi. Pourquoi pas ? Ce sont des termes qui relèvent vraiment de l'anthropomorphisme. Et ça m'a fascinée dès l'enfance.
Ça vous a effrayé ?
Ça m'a effrayé parce qu'en fait, j'étais invisible et moi, je voyais.
Par contre, on est caché finalement dans
un escalier. Caché, oui, j'étais insoupçonnable. Voilà. Et bon, évidemment, dans les films d'Hitchcock, on retrouve souvent cette situation. Et ça m'a fascinée. Ensuite, mes parents m'ont emmenée voir les oiseaux en direct quand j'avais 12 ans, 12 ans et demi. Et là, la scène.
Donc, c'est un film interdit aux États-Unis au moins de 13 ans.
Bien sûr. Mais l'interdit, ça me dérange pas tellement. Voilà. Et donc, cette scène de montée au grenier de Tippi Hedren, de Mélanie Daniels, le personnage, m'a complètement bouleversée. C'est extraordinaire. Et puis, ce ralentissement du temps, qui est prodigieux et que j'ai vécu moi aussi dans mon escalier quand j'étais enfant, certainement. Cette espèce d'étirement du temps qui est fabuleux. Contrairement à Griffiths ou à Wells, hein, qui pratiquent l'accélération et puis qui travaillent beaucoup sur le montage. Bon, Hitchcock travaille sur cet étirement et puis sur le découpage. Et c'est ce qui rend cette action, ce qui crée, on va dire, le sentiment de frayeur. Ça dure, ça n'en finit pas.
Tous les escaliers intéressent Hitchcock, ceux qui sont ouverts, ceux qui sont fermés, ceux par lesquels on peut voir, ceux qui, au contraire, cachent la vue et nous enferment.
Alors justement, c'est intéressant de reprendre le film Number 17,
donc son premier film.
Un de ses premiers films, en 1932, qui a été très méprisé. Même par Truffaut, parce que Truffaut, dans les entretiens, dit que ce film est plaisant, que la deuxième partie, pourquoi pas, est burlesque et amusante. Mais il ne parle pas du tout de la première partie qui se déroule pendant 40 minutes dans un escalier. Or là, vous avez vraiment en germe tout ce qui va se passer dans les films jusqu'à Complot de famille. Alors déjà, vous avez les trois escaliers qui sont repris dans tous les films. Vous avez l'escalier à retour. Et donc c'est un escalier qui revient sur lui-même. Et alors les personnages reviennent pas forcément d'ailleurs dans les films qui suivront. Ils vont monter sans espoir de retour, comme oui. Dans Vertigo ou dans Frenzy. Ensuite vous avez l'escalier secret, l'escalier en vis peut-être d'abord, qui est tournant et qui mène à un escalier secret par une trappe. En fait, vous avez un escalier en ruine qui est habité par un clochard, qui est joué par un acteur prodigieux, hein, c'est Léon M. Lyon. Et ce clochard se promène dans cet escalier avec une chandelle allumée. Et donc, on va dire que c'est une parodie de l'expressionnisme, parce que d'un seul coup, il surgit. Et bon, l'ombre pourrait faire peur, mais en fait, elle habite un clochard sympathique, cette ombre. Mais on retrouvera cette ombre dans d'autres films avec un pouvoir effrayant.
Donc chaque forme d'escalier a une signification particulière chez
Hitchcock. Oui, vous avez l'escalier secret, la maison est truquée, et ce trucage, on retrouve dans d'autres films. Par exemple, dans 4 de l'espionnage, souvenez-vous, avec Peter Lorre, vous avez un petit escalier comme ça qui mène à l'étage dans une fabrique de chocolat, et dans une boîte de chocolat, sur le tapis roulant, vous avez un message secret. Donc là, cet escalier, encore une fois, est dérobé, inaccessible aux autres personnages du film. Et puis l'escalier droit.
Alors l'escalier droit, il a une signification.
Je reviens en boucle. Comitch, il aime bien Hitchcock revenir en boucle dans ses films et puis dans ses entretiens d'ailleurs. C'est un escalier droit dans Notorious. Cet aller-retour de l'espion, des amoureux. En bas, vous avez l'amour, l'échappée. Et puis en haut, vous avez la mort qui attend.
Notons d'ailleurs que chez lui, c'est plutôt l'idée de chute que l'idée de descente qui l'emporte. De ce point de vue, il ne fait que reprendre, après tout, des éléments aussi qui ont été travaillés par d'autres. Le burlesque a beaucoup travaillé la chute, ce qui est normal, puisque le comique a pour base la perte de l'équilibre, et les burlesques, que ce soit Chaplin, que ce soit Keaton, l'ont utilisé, mais peut-être celui qui l'a, dans les burlesques qu'il avait le plus utilisé à l'époque, c'était été Harold Lloyd, en particulier avec ses fameuses scènes de vertige que l'on voit dans Monte là-dessus. Mais chez Hitchcock, la conception de la chute a, là aussi, un point de vue moral, c'est-à-dire que on va chuter, c'est aller vers le mal, c'est aller vers les ténèbres, c'est aller vers l'interdit, etc. C'est tout à fait donc différent.
Alors avec les escaliers d'Hitchcock, on peut monter vers la mort, comme dans Psychose par exemple, mais aussi on peut descendre au tombeau, on peut descendre vers le passé.
Oui, vous avez, descendant le passé, vous avez le film La loi du silence, le flashback, je ne sais pas si vous vous souvenez, le flashback avec Mango, Mary Clift et Anne Baxter. En fait, l'histoire, bon, je me rappelle rapidement, enfin, bon, un crime a été accompli à Montréal et le criminel est le bedeau du prêtre qui s'est confessé auprès de lui et le prêtre tient à garder le secret de la confession, bien entendu. Mais il subit un chantage parce qu'il a d'abord été fiancé avec une dame très en vue dans la ville. Et donc, quand le tribunal décide de soupçonner le prêtre et puis l'accuse, le fait venir pour un entretien, un témoignage, il y a ce flashback qui vient d'Anne Baxter. Donc on voit d'un seul coup cette jeune femme en haut d'un escalier, habillée de blanc, le prêtre en bas, et l'espace est chaviré, la caméra cadre de biais. Donc vous avez vraiment une musique, on dira romantique entre guillemets, le romantisme galvaudé, et vous avez cette descente d'escalier majestueuse qui est très belle, la rose en blanc et l'homme en bas, les escaliers sont ouvragés. Mais alors ce qui est intéressant, c'est que quelques temps après, elle évoque un autre moment, et cette fois, elle est cadrée de dos, en haut de ce même escalier, et on aperçoit deux prêtres qui passent sous un parapluie, l'ambiance est maussade, son fiancé n'est pas revenu, et donc ça anticipe sur l'avenir. Donc l'escalier joue à la fois le rôle de catalyseur du passé et de préfiguration de l'avenir. Donc c'est très inventif.
Est-ce que Hitchcock lui-même, Lydie de Cobert, s'est exprimé sur ce motif de l'escalier? Vous avez dû chercher, j'imagine, dans les entretiens, par exemple, avec Truffaut, un certain nombre de mentions de l'escalier. Est-ce que vous en avez trouvé?
C'est-à-dire que Truffaut pose les bonnes questions, mais Hitchcock ne répond pas nécessairement. Par exemple, pour Psychose, Hitchcock dit finalement, ça ressemble symboliquement à un escalier, votre film, puisqu'il y a d'abord un vol, enfin il y a d'abord un adultère, ensuite vous avez un vol, qui est quand même un crime, et puis ensuite ça ne fait que monter d'une marche à l'autre. Mmh. Et là, Hitchcock aurait pu s'emparer justement de cette figure-là, mais non, il n'en parle pas.
Alors, la maison est d'ailleurs en haut d'une colline, il faut y monter par une sorte d'escalier d'ailleurs.
J'allais vous dire, c'est qu'il y a 6 allers-retours de Norman Bates entre l'hôtel, entre la maison familiale et le motel. Alors la maison familiale, comme vous dites vous-même, elle est en suspens justement. Et ce suspens, c'est le passé dans lequel Norman habite.
Pourquoi le passé serait-il en suspens ?
Le passé est en suspens parce que c'est la maison de son enfance. Et plus vous montez, plus vous avez sa chambre où il y a son ours en peluche. Vous vous souvenez, à la fin du film, on découvre sa chambre par le regard de la sœur de Marion Crane, hein, qui a été assassinée. Jeanette Leigh, donc. Et cette montée, vous avez la mère qui est à la cave, mais cette maison est consacrée vraiment au passé. Oui. Et le bas, évidemment, c'est l'horrible présent, avec les voyageurs qui viennent perturber. voilà, ce la psychopathie du personnage.
Alors voilà justement ce que Hitchcock avait dit à ce sujet de l'escalier dans Psychose à François Truffaut.
All the elements that would give you the suspense
tous
of that detective walking up the stairs.
Qui allait vous donner le suspense de ce détective monter l'escalier?
Had gone before.
Avait précédé.
Therefore.
Par conséquent.
It needed a simple statement.
Il y avait besoin d'une déclaration toute simple.
You needed to show.
Il vous fallait montrer.
Stairs.
Des escaliers.
And a man going up the stairs.
Et un homme qui monte les escaliers.
Ah ouais.
In a very simple way.
D'une façon très simple.
Oui, il a l'air comme ça.
Well, an air of caution.
Un peu.
Looking
un
around.
Peu prudent, enfin, qui regarde.
Oui.
Because the cutting up of the
Parce
man's journey.
Le découpage du trajet de l'homme.
Would ruin.
Ruinerait.
The cuts that you needed at the time of his. Death.
Découpage dont vous aviez besoin au moment de sa mort.
Pour terminer donc sur ce motif de l'escalier, on peut peut-être dire que c'est au fond l'incarnation au cinéma pour Hitchcock du sentiment d'insécurité. Vous seriez d'accord avec ça, Lydie de Cobert ?
Le sentiment d'insécurité, et c'est surtout, je reviens là-dessus, un processus, ça lui permet de... Il travaille l'escalier comme une dynamique, vraiment. Par exemple, l'escalier est organique, il est vivant. Dans Frenzy, l'escalier redescend tout seul,
ouais.
Dans le silence. On comprend que la victime va se faire étrangler.
Mais le processus, c'est le processus de la personne qui emprunte l'escalier ?
Non, je trouve que Hitchcock filme l'escalier comme un animal, comme quelque chose qui vibre et qui bouge et qui vit. D'ailleurs, quand vous avancez à la fin de Frenzy, vous avez un cadrage de... Vous avez John Finch qui s'est échappé de la maison, de l'hôpital, non, de la prison, puisqu'il a été arrêté à la place de l'étrangleur. Et il arrive dans la maison de l'étrangleur pour l'assassiner, avec un cric dans la main droite. Mais quand vous avez le cadrage de l'escalier, avec la porte qui est ouverte, mais on n'a pas l'impression que c'est vous qui entrez, mais que c'est l'escalier qui vient vers vous. Et bon, je ne sais pas par quel prodige. Et ensuite, vous avez le serpent de la rampe. On a l'impression que la main posée sur la rampe essaie d'amadouer, la bête. Et au tournant, on sent comme un soupir. Il a réussi à tourner. L'escalier ne s'est pas déchaîné. Moi, je vois comme quelque chose de vivant. Bah, un petit peu, je pensais à Giono qui parle beaucoup de l'escalier, comme ça, dans Manosque des plateaux. Il évoque l'escalier qui rampe sournoisement avec une belle pomme d'or dans la gueule, vous vous souvenez ? Puis il y a ça aussi chez Faulkner. Enfin, l'escalier vivant, je pense que c'est quelque chose qui tient à cœur Hitchcock. C'est plus que ce que... Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà.
Alors, quelle attention portait-il précisément au décor ? Parce que c'est pas uniquement filmer, là, c'est aussi choisir l'escalier. Vous dites que Hitchcock est un architecte.
Oui.
En quel sens ?
Un architecte dans la mesure où il se sert de l'escalier, par exemple, pour structurer un plan. Bon, je convoque un film, par exemple The Lodger, un de ses premiers films, qu'il aime beaucoup d'ailleurs. Eh bien, vous avez l'arrivée du locataire, qui est très très bizarre, hein, qui va être soupçonné comme l'étrangleur des jeunes filles blondes. Eh bien, le plan est coupé en... Vous avez d'abord un plan avec l'arrivée du personnage, et là, l'escalier descend vers lui et l'indique. Ensuite, vous avez immédiatement un autre plan fixe, il y a beaucoup de plans fixes hein, chez Hitchcock, et là, vous avez l'escalier qui coupe l'image en deux. Voilà, avec une échappée vers d'invisibles hauteurs inquiétantes, étranges.
Alors ça nous emmène, Lydie de Cobert, vers la composition du plan par Hitchcock. Vous avez donc aussi travaillé sur le rapport d'Hitchcock avec la peinture. C'est finalement d'un artiste dont vous nous faites le portrait dans votre livre. Qu'est-ce qu'on peut dire, pour commencer, sur la façon de composer les plans d'Hitchcock, parce que donc on sait qu'il dessinait sur storyboard. Bon, on a expliqué aussi mardi qu'il faisait dessiner parfois par d'autres. Mm-hmm. Mais est-ce qu'il y a des généralités déjà sur la composition à énoncer avec vous ?
Ça va peut-être vous surprendre, mais certains considèrent que les croquis d'Hitchcock ne sont pas intéressants, ils sont mauvais. Et moi, je pense tout le contraire. Je pense qu'il y a trois traits, mais que ces traits sont incisifs et que l'image, elle est déjà là.
Alors, bon, et on retrouve vraiment l'image dans le film.
Exactement. Dans mon livre, j'ai mis deux images de la main au collet. Et si vous regardez les deux plans qui correspondent à ces images, c'est à un millimètre près, c'est exactement la même chose. Et du coup, je pense à Picasso qui dit un trait est totalement suffisant. Rien n'est plus difficile qu'un trait. Et personne n'imagine combien c'est difficile de tracer un trait. Et Hitchcock avait sa vision de film, dans la tête. Et son croquis est largement suffisant pour laisser travailler après les opérateurs.
Donc vous parlez du trait, vous parlez pas de la couleur, il faut dire.
Alors pour l'instant, le trait. Alors ensuite la couleur. Eh bien la couleur, c'est vrai qu'elle est prodigieuse dans les films, mais les noirs et blancs sont bien aussi. Enfin les noirs et blancs sont des couleurs pour Hitchcock, si je peux me permettre en passant.
Pourquoi vous dites ça ?
Beaucoup de rapports à Rembrandt aussi dans le noir et blanc. Pourquoi je dis ça ? Eh bien parce que dans les Psycho déjà c'est un film en noir et blanc. Ce choix est important. Bon, Hitchcock explique qu'il a choisi le noir et blanc pour ne pas mettre de sang. Et ça me rappelle encore Picasso qui, dans Guernica, n'a pas voulu mettre de rouge. Ouais. Et donc, le noir et blanc, le travail du clair-obscur...
Et pourquoi ne pas mettre de sang dans un film comme celui-là, justement ? Pour que l'évocation soit plus forte sans cela ?
Parce que ça ne prendrait pas le statut de rouge, simplement, comme dirait Godard. Je pense que ça resterait du sang. L'évacuation, comme ça, par le trou de la douche, est déjà tellement extraordinaire. Je pense qu'il ne faut pas en rajouter la liquéfaction du personnage. D'ailleurs, il y a une liquéfaction du plan, puisque vous me parlez de la peinture. C'est travaillé comme une aquarelle, en fait, cette scène, cette séquence de la douche.
Alors là, c'est...
J'ai peut-être pas répondu... J'ai pas encore parlé de la couleur, mais si.
Je voudrais signaler que c'est la plasticienne qui parle en vous.
Oui.
Parce que vous êtes vous-même plasticienne. Et quand on le sait, on comprend mieux la manière dont vous analysez les films d'Hitchcock. Mais allez-y, je vous laisse poursuivre.
Mais je pense qu'Hitchcock est plasticien avant tout. Et c'est Godard qui est le premier à découvrir ça. C'est extraordinaire, d'ailleurs. C'est bien Godard qui dit qu'il faut parler de Hitchcock, non pas comme quelqu'un qui élabore du suspense ou des scénarios, mais comme d'un peintre. Il faut parler d'Hitchcock comme du Tintoret.
Alors pourquoi du Tintoret ? C'est vrai que Hitchcock a dit que l'écran finalement était comme une toile qu'il fallait peindre.
Oui, et il dit aussi qu'il voit, avant de commencer un film, il voit son histoire, comme je mets ça dans l'entrée de mon livre, en préface, comme des touches de peinture qui jouent entre elles sur des plans et différents plans, arrière-plan, sans trop de profondeur de champ d'ailleurs. Donc il revendique, et puis Hitchcock aurait aimé avoir une équipe, être entouré d'une équipe qui aurait été capable de penser picturalement. C'est quand même important. Il dit ça dans Hitchcock par Hitchcock, tous les interviews reprises par Sidney Gottlieb. Et c'est vraiment quelqu'un qui est très attaché à ça. Mais même ses films en couleur, justement, sont traités comme des grandes peintures avec des résonances d'une partie à l'autre, comme dans Vertigo, par exemple.
Alors justement, de ce point de vue-là, de la couleur et de la composition, quels vous semblent les films les plus plastiques chez Hitchcock, les plus intéressants de ce point de vue-là ?
Je suis bien embarrassée parce que je suis tellement fascinée. Je trouve que tous les films sont plastiques. C'est une réponse de Normand ou facile. Bon, c'est sûr que Vertigo est éblouissant, mais sinon vous avez aussi... Mais qui a tué Harry avec ses...
Alors là, on est vraiment dans la campagne.
Ah, mais oui, tout à fait.
Énormément de couleurs.
Et c'est Hitchcock se renouvelle constamment. Et c'est pour ça que c'est vraiment un créateur de formes. C'est incroyable. Incroyable. Et c'est expérimental aussi. Bon, il a recours à de nombreux peintres pour les matte paintings, c'est-à-dire les toiles de fond, depuis Europe, depuis la corde, depuis ce cyclorama géant qui est placé au fond. Il fait un petit peu comme les maîtres de la Renaissance, en fait. Parce que Poussin, par exemple, il fabriquait des petites boîtes dans lesquelles il mettait un fond, des petits cailloux, des petites branches. Et puis là-dessus, ses personnages, après, évoluaient. Hitchcock fait la même chose, un peu. C'est très classique, en fait.
C'est un cinéaste qui reprend, en effet, une plastique classique.
Oui.
Et vous expliquez dans votre livre, d'ailleurs, vous mettez beaucoup de photos de tableaux en regard de plans de Hitchcock, qui a un certain nombre de peintres dont on peut retrouver les influences de manière très directe chez Hitchcock. Alors prenons-en quelques exemples. Il y a par exemple Munch et le fameux cri de Munch. Où est-ce qu'on le retrouve dans Les Oiseaux ?
Alors c'est notamment dans la scène Jessica Tandy qui joue la mère du personnage principal. Eh bien, en fait, il y a une gradation. Les oiseaux commencent par attaquer un petit peu, etc. Il y a une gradation. Et cette femme découvre le fermier avec les yeux totalement aveuglés. Alors, c'est très long dans la maison, d'ailleurs, avant qu'elle le découvre. On voit d'abord les tasses, les couloirs, les pièces, etc. Et quand elle voit ça, la bouche s'ouvre. Et c'est incroyable, parce que toute la séquence de retour, elle passe devant le fermier, donc il y a un cadrage du visage en contre-plongée avec le fermier de profil à sa droite, un gros plan, et la bouche est toujours ouverte. Elle va reprendre sa voiture avec la bouche ouverte, et le cri ne sort pas. C'est pour ça que je dis, en plaisantant, le cri était presque parfait.
Mais c'est... Il y a aussi une référence à Duchamp.
Oui.
Vous retrouvez la fameuse Joconde L-H-O-O-Q
ah, oui.
de Marcel Duchamp dans Vertigo, par exemple.
Ah oui, mais je trouve que l'humour d'Hitchcock est présent dans les moments...
L'humour de Duchamp aussi.
Oui, Duchamp aussi, bien sûr. Bah, c'est quand, quand Kim Novak fait semblant de vouloir se suicider, puisqu'elle incarne ce personnage de Madeleine Elster, et elle se précipite au bord du quai et elle saute. Alors elle saute de très peu. Hein. Et là, c'est très drôle parce que James Stewart apparaît comme un héros de pacotille. Il enlève sa veste, il met un temps fou à enlever sa veste, son chapeau. Il descend trois petites marches, vous vous souvenez pas ? Et il plonge. Et là, en fait, il va prendre Kim Novak dans les bras, mais en fait, il s'accroche au sein comme si c'était des flotteurs. Mmh. Et ça, c'est carrément une ironie. Et qui est très proche de ce que pouvait faire Marcel Duchamp. Voilà.
Alors, il y a encore un des livres que vous avez écrit, puisque vous en avez écrit beaucoup, Lydie de Cobert, qui a pour titre L'Arc de Hitchcock.
Oui.
Le titre ne me revient pas exactement.
Un jeu de cordes. Ben, ça, c'est le titre en fait, générique des trois essais. Mm. L'Arc d'Alfred Hitchcock, un jeu de cordes.
Alors, pourquoi l'arc et le motif de la flèche aussi,
oui.
que vous voyez très important chez lui?
Oui, alors pourquoi l'arc? Parce que Hitchcock s'explique justement là-dessus, pour une fois. Il compare souvent son public à une cible. Mm. Et il dit qu'il ne faut pas perdre de vue, il faut viser sa cible et ne pas perdre de vue et voir où la flèche va atteindre. Et donc c'est important. Et puis plus d'une corde à son arc, bon, c'est vrai que l'archer le plus célèbre, c'est quand même Eros. Et les flèches décochées par Eros sont porteuses de... Elles contaminent et ce qu'elles touchent, elles les envoûtent, elles leur apportent l'amour fou. Et bon, il y a un rapport aussi avec ça, la mort et l'amour hein, chez Hitchcock, constamment.
Il y a du ronsard
oui.
chez Hitchcock.
Oui, alors du ronsard, non, parce que pour ronsard, il y a un plaisir dans le fait de souffrir. Et là, dans les films, je ne pense pas. Je pense que c'est vraiment pour malmener la cible, le spectateur, pour le mettre dans un état éprouvant, pour l'éprouver.
Alors, cette idée aussi des cordes, c'est... pour dire, je crois, Lydie de Cobert, qu'il a, Hitchcock, beaucoup de cordes à son arc, et vous en citez un certain nombre, donc l'architecture, mais aussi, de manière plus étonnante, la géométrie, l'ingénierie, la magie, les mathématiques, et puis après, bon, la musique, la peinture, la philosophie, la poésie, le théâtre, géométrie, ingénierie, magie.
Alors, moi, par contre, je n'ai pas autant de cordes à mon arc. Et la géométrie, on pourrait faire un livre là-dessus, je pense, qui s'appellerait « Le géomètre du suspense », par exemple. Mais bon, moi, je ne suis pas en mesure de l'écrire.
Pas encore, mais...
Je ne pense pas. Mais en tout cas, c'est impressionnant comme les... Bon, l'importance de la perspective, c'est géométrique, la perspective. C'est incroyable comme Hitchcock l'utilise dans ses films. Si vous repérez... Alors, je parle en tant que plasticienne, parce que je me suis amusée, évidemment, à chercher... à prolonger les fuyantes pour trouver les points de fuite et ils aboutissent.
Dans La mort aux trousses, par exemple, on voit la route.
C'est ça, dans la
partir
fameuse scène.
Vers l'infini.
Très, très lente.
Quand l'avion vient attaquer le personnage.
Tout à fait. Donc, le point de fuite, là, il mène nulle part. C'est une perspective qui n'aboutit à rien. Donc, c'est un petit peu une subversion de la perspective traditionnelle. Mais c'est sûr. Alors, il y a trois interruptions du fil narratif pour rien du tout. Mais c'est justement cette vacuité qui va. Entraîner la terreur par la suite avec la fameuse scène dans le champ de maïs.
Allez, on va continuer à aborder avec vous divers points qui vous intéressent chez Hitchcock. On va parler notamment de son rapport aux objets et aussi à la musique de ses films. Mais pour l'heure, on retrouve la chronique du jeudi. Elle vous est proposée aujourd'hui par Nathalie Frolov.
La compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Et oui, car chaque jeudi, vous le savez, nous proposons une carte blanche à quelques habitués de la compagnie. Aujourd'hui, Nathalie Frolov, professeure en classe préparatoire au lycée Louis-le-Grand à Paris. Bonjour Nathalie.
Bonjour Mathieu.
On continue avec vous de s'intéresser à des détails signifiants du cinéma d'Hitchcock. Et en l'occurrence, vous êtes penchée sur le motif de la fenêtre, alors dans son cinéma, mais aussi dans la littérature plus généralement.
Oui, vous parliez Mathieu mardi avec Thierry Jousse de Fenêtre sur cour comme d'un film sur l'interprétation. Les personnages inventent des histoires à partir de bribes dont ils ne connaissent pas grand-chose. Donc histoire qui est celle du meurtre, bien sûr, qui n'est pas montrée, mais aussi histoire de tous les autres personnages que Jeffries observe depuis son fauteuil roulant. Chaque fenêtre de ses voisins d'en face offre les scènes de la vie new-yorkaise. Comme le dit Truffaut dans ses entretiens avec Hitchcock, il y a la femme seule, sans mari ni amant, les jeunes mariés qui font l'amour toute la journée, le musicien célibataire qui s'enivre, la petite danseuse...
Au début, après, oui, voilà. S'engueule.
C'est vrai. La petite danseuse que les hommes convoitent, et le couple sans enfant qui a reporté toute son affection sur un petit chien. Jeffries, en quelque sorte, est un créateur de multiples histoires qui hésite entre les différents sujets qu'il pourrait développer et qui nous donne des nouveaux fragments de récits de temps en temps à mesure que le film progresse. Ici, Hitchcock joue donc sur la mémoire du spectateur, mémoire littéraire. La fenêtre, en effet, permet ce cadrage sur un sujet précis, ce qui en fait la métaphore même de la représentation littéraire, en quelque sorte une mise en abîme de la création. Andrea Del Lungo, dans son ouvrage qui est consacré justement à la fenêtre comme motif littéraire, liste les différentes fonctions de ce topos. Alors, il y a le cadrage visuel, la connaissance indiciaire, la séparation symbolique et l'investissement libidinal. Alors, sans tout reprendre, mais Fenêtre sur cour illustre parfaitement toutes ces différentes fonctions. La fenêtre, en effet, réduplique l'objectif de l'appareil photo de Jeffries, qui lui-même fait écho à l'objectif de la caméra du réalisateur. La fenêtre donne à voir toute une série de tranches de vie, qui suscitent déchiffrement, interprétation. Elle montre aussi que Jeffries est exclu de la vie et qu'il ne peut que se projeter, malheureusement, dans le théâtre du monde du fait qu'il est malade. Mais surtout, la fenêtre renvoie à toute une littérature amoureuse qui fait de ce signe le lieu de matérialisation du désir et l'expression du voyeurisme qui fascine et exclut.
Alors, à quel livre peut-on penser en particulier ?
Alors, le premier qui m'est venu à l'esprit, en fait, c'est La Princesse de Clèves, où le duc de Nemours vient regarder Madame de Clèves en train de jouer avec une canne et des rubans aux couleurs de l'amant, puis qui va admirer le portrait justement de Nemours au siège de Metz, je cite, avec une attention, une rêverie que la passion seule peut donner. Ce qui achève de faire de ce passage une scène clairement érotique. Proust va reprendre cette fonction libidinale lorsqu'il montre Swann en train d'errer dans une petite rue à Paris qui donne justement sur l'arrière de l'hôtel d'Odette. Il essaie de savoir si Odette a reçu un autre homme après lui. Rob Grier, enfin, fait de la fenêtre l'élément central de son roman La Jalousie, dans lequel le narrateur, à la fois omniprésent et absent, détaille de manière obsessionnelle sa jalousie. Et là, la jalousie, c'est à la fois, en fait, le motif littéraire du triangle amoureux, mais aussi le séparateur, le treillis qui permet de voir sans être vu. Fenêtre sur cour reprend ces différents éléments de l'amour et les conjugue de manière assez ironique, en renvoyant aussi au début du roman policier. Alors je pense par exemple à Double assassinat dans la rue Morgue de Poe, où la fenêtre, comme chez Hitchcock, met en abîme le secret propre à chacun, le dévoilement de l'énigme et la volonté heuristique. La fenêtre est comme un signe presque parfait qui permet à l'enquêteur d'observer les autres pour découvrir les preuves d'une affaire en cours. Alors là, je pense à, puisqu'on a bientôt des émissions sur Simenon, je pense à Maigret le fantôme, dans lequel l'inspecteur Lognon, qui est avenue Junot, observe par une fenêtre les va-et-vient de faussaires de tableaux et il est démasqué par le bout de sa cigarette, comme ici l'assassin au moment de la mort du petit chien. On voit qu'Hitchcock il s'amuse par une série de mises en abîme avec le motif de la fenêtre jusqu'à en faire un miroir inversé de la réalité. On a d'un côté une femme invalide et son mari qui ne l'aime plus, et en face, on a un homme invalide, Jeffries, et une femme aimante, Lisa, qu'il finira par épouser. Mais le moment crucial du film, l'acmé du film, va paradoxalement être le moment où la fenêtre ne va justement plus protéger Jeffries. Elle ne va plus être cet écran séparateur qui permet l'enquête à distance, loin de la sensation d'agoraphobie. J'avoue qu'en tant que spectatrice, ça me fait un peu ce sentiment-là. Sensation d'agoraphobie que donnent tous ces immeubles où la vie privée devient un livre ouvert. Le trait de génie d'Hitchcock, c'est de briser le quatrième mur lorsque l'assassin pénètre dans le deux pièces de Jeffries. Le spectateur est alors pétrifié. Il assiste à une rencontre amoureuse inversée, où le coup de foudre, c'est un flash d'appareil photo qui paralyse et sidère, et où malheureusement ce n'est pas l'amour qui est promis, mais la mort. on voit là qu'Hitchcock revient à l'essence du cinéma qui est de montrer plutôt que de dire, dans une sorte d'expressionnisme jouissif renvoyant à The Lodger qu'on vient d'évoquer et qui annonce aussi le fou coupable. La fenêtre, en fait, cristallise la pulsion scopique du spectateur et du personnage et elle devient ainsi la métaphore des possibilités offertes par la vie et par le cinéma.
Vous pourriez, Lydie de Cobert, vous intéresser aussi à la fenêtre chez Hitchcock, ça vaudrait bien un livre, ça.
Oui, j'y pensais justement, j'étais en train de me dire qu'on entrait souvent par la fenêtre dans les films d'Hitchcock, pour en psychose. Vous vous souvenez, la caméra survole Phoenix et elle s'introduit, elle plonge vers un immeuble, un gratte-ciel, et elle s'introduit par la fenêtre, les volets sont entrouverts et là, il y a un monochrome, un noir, et puis on voit le repas après l'amour, une bouteille et un plan sur le plateau avec le petit déjeuner. Il s'introduit par la fenêtre aussi, dans Le crime était presque parfait, on passe par la fenêtre. Il y a beaucoup, dans La loi du silence.
Vous avez vraiment la filmographie plan par plan en tête, c'est incroyable.
C'est-à-dire que, si vous voulez, moi, je m'intéresse pas trop à tout ce qui est biographique, je regarde les films et je m'arrête. Et je me rends compte que, en fait, chaque plan, chaque image d'Hitchcock est vraiment une œuvre. C'est fou, tout est élaboré, tout est construit, mais c'est prodigieux. Et du coup, j'ai passé de nombreuses heures à observer ça.
Merci beaucoup Nathalie aussi pour votre chronique. On vous retrouve très bientôt dans cette même séquence.
When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera. Whatever will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be.
C'est toujours la Compagnie des œuvres que vous écoutez. Vous êtes bien sûr France Culture avec cette chanson extraite de L'homme qui en savait trop, chantée par Doris Day. Nous repartons dans la seconde partie de cette dernière émission consacrée à Hitchcock avec une archive de 1963 enregistrée à Cannes par Nicole Strauss.
Que sera, sera. Whatever will be, the future's not ours.
Mais la forme d'un film de moi commence avec peut-être Allegro et Andante et la fin est plus Allegro.
Oui.
I use music shape all the time. And a theme, one theme, another. Here, in dans les oiseaux, le thème commence avec les personnes. Un nouveau thème commence, le thème des oiseaux. Et le thème des oiseaux est plus grand, est bigger.
Plus grand.
Est plus grand contre le thème des personnes.
Oui. Parce que les
oiseaux. De musique.
Bien sûr, parce que les oiseaux dans votre film sont plus forts que les personnes.
Oui.
Alors parlons un peu avec vous, Lydie de Cobert, de la corde musicale d'Alfred Hitchcock. Son intérêt pour la musique est immense. On parlait à l'instant de Fenêtre sur cour. Il y a un personnage de musicien dans Fenêtre sur cour, un personnage du pianiste qui n'est pas dans la nouvelle de Woolwich qui a inspiré le film. C'est donc bien lui qui l'a fait émerger, qui l'a inventé, ce personnage, et pourtant il a son importance. Les personnages d'abord de musiciens, de chefs d'orchestre.
D'accord, je commence par répondre sur les personnages. Alors, Hitchcock apprécie beaucoup le criminel musicien dès ses premiers films. Par exemple, vous prenez...
Le maestro du crime.
Ce qu'on a entendu tout à l'heure, là, à l'instant, c'était intéressant parce que on parlait d'orchestration, Hitchcock parlait d'orchestration. Il orchestre littéralement ses films. Il compare les personnages à des sonorités, à des moments musicaux. Et bon, je reviendrai dessus. Donc, si je prends Jeune et innocent, en 1937, je crois. Eh bien, le musicien, hein, batteur de jazz dans un café, tout le monde se souvient de... Alors, ce magnifique travelling descendant... Je rappelle peut-être l'intrigue.
Si vous voulez.
D'accord. En fait, le film s'ouvre sur un homme qui a un tic nerveux dans les yeux. Et sa femme est épouvantable avec lui. Elle lui hurle dessus. Et donc, c'est une scène de ménage, une grosse dispute. Et puis le lendemain, vous avez un personnage qui se promène sur la plage. C'est Derrick de Marnay qui incarne le personnage. Et il découvre une femme étranglée avec une ceinture d'imperméable. Donc, il est accusé, puisque c'est lui qui trouve la femme. Et il s'enfuit avec la fille du commissaire, qui est jouée par Nova Pilbeam, qu'Hitchcock apprécie beaucoup d'ailleurs. Et ils sont à la recherche donc de cette ceinture, peut-être de l'imperméable. Enfin, voilà. Ils trouvent cet imperméable, mais sans sa ceinture, sur un clochard très sympathique. Et dans la poche de l'imperméable, il y a une carte qui les mène au Grand Hôtel. Alors le Grand Hôtel, c'est un immense hôtel, comme le nom l'indique, qui comporte une grande salle de bal et de jazz. Mmh. Et là, il y a un orchestre de jazz avec des musiciens grimés en noir. Et donc, c'est très burlesque, hein, il commande du thé, c'est très drôle. Et où est-ce qu'on va trouver un personnage qui a un tic nerveux? Parce que nous, on l'a vu, mais lui, oui, il a appris par le clochard. Le clochard s'en est rendu compte puisqu'il a récupéré l'imperméable. Donc, il s'agit de trouver quelqu'un qui a un tic nerveux dans la salle. Mmh. Alors là, c'est prodigieux parce que la musique, elle est plus importante que l'image. C'est elle qui va nous renseigner. Alors, nous sommes dans le hall et la musique s'élève et on entend un swing avec ces paroles « No one can like the drummer man ».« No one can like the drummer man
bon. ». Donc, personne ne peut aimer
personne n'écoute ça. Bon, on va écouter la musique alors qu'on cherche quelqu'un qui a un tic nerveux. Mais la caméra s'élève et elle suit alors la musique. Elle traverse la salle de bal, la colonnade, et elle se dirige en plongée comme ça jusque sur l'estrade et elle pique comme ça sur un des musiciens, le batteur. Elle se rapproche, gros plan, cadrage sur les yeux qui d'un seul coup ont un tic nerveux.
Mais là, la musique s'adresse alors, à qui? Au spectateur ou au personnage?
Elle s'adresse au spectateur parce que les personnages ne voient pas ça. C'est vraiment le spectateur qui est informé, mais qui n'a peut-être pas toujours encore fait le lien avec la musique d'ailleurs. Il faut réécouter des quantités de fois. Mais ensuite, c'est la musique qui va le faire accuser. La musique, elle joue un rôle. Parce que le commissaire arrive dans la salle et c'est pour la jeune fille, puisqu'elle s'est enfuie. C'est la fille du commissaire. Mais lui, il croit que c'est pour lui, pour son crime. Donc, il est anxieux, angoissé. Il va commencer par jouer en se cachant un œil. Mais évidemment, il ne peut pas jouer comme ça. Ensuite, il se retourne et il fait du xylophone sur un swing qui ressemble à une valse. Donc, il va déphaser, en fait, tout le morceau. Le chef d'orchestre est en colère. Donc, on a une dissonance, un déphasage, etc. Il avale des pilules, il tombe dans le tambour. Je suis trop longue.
Non, mais on va avoir envie d'aller voir le film.
Ah, ben oui, allez le voir. C'est un film extraordinaire, très drôle. Et puis, la musique a un rôle prépondérant. Ouais. Et en fait, c'est à cause de la musique et du déphasage qu'il va être accusé. Donc, la musique a joué le rôle de révélateur. Et c'est repris dans la corde. Parce que c'est encore la musique qui va dénoncer.
Autre film
de
Hitchcock. Dire au passage que Hitchcock lui aussi se métamorphose en musicien lors d'un certain nombre de ses apparitions rituelles dans ses films, ce qui prouve quand même son intérêt aussi pour les musiciens, j'imagine. Alors quand vous dites que c'est un chef d'orchestre en tant que cinéaste.
Mais c'est-à-dire que pour lui, les têtes des gens... Mais ça commence peut-être dans Chantage, ça. J'ai totalement oublié le nom de l'acteur. Mais il trouve que c'est un acteur qui a une tête qui fait penser à des sons d'orgue. Et pour lui, chacune des expressions, c'est comme un son joué à l'orgue. Mmh. Bon, c'est quand même pas innocent. Hein. Et donc, il trouve cette tête prodigieuse à cause de ça.
Donc c'est vraiment une partition.
Une partition. Mais il en reparle à Truffaut dans Psycho, justement. Il dit que la tête du détective Arbogast, hein, c'est comme un cuivre, un son strident, terrible. Et par contre, les violons qui sont derrière, en haut, qui traduisent l'élévation de la caméra. Donc on est toujours dans l'orchestration.
Alors, il y a des orchestres aussi dans d'autres films, comme dans L'homme qui en savait trop. Je vous propose d'écouter justement ce que disait Truffaut à ce sujet.
Alors ici, avec Hitchcock, nous avons une conception du cinéma qui est très souvent musicale, de toute façon. Hitchcock travaille comme un chef d'orchestre, il travaille très physiquement, très sur les nerfs, en sachant qu'il faut accélérer ici, qu'il faut retenir tout le temps l'attention des gens. Et il pense, je crois, dans ses scénarios, et surtout sa mise en scène après, en termes musicaux. Ici, dans L'homme qui en savait trop, nous avons un moment de cinéma privilégié, disons, un moment absolument idéal, parce que nous avons le fameux suspense hitchcockien qui va travailler à l'intérieur d'une séquence musicale. Donc nous savons qu'il y a un concert, il y a des spectateurs, parmi ces spectateurs un ambassadeur et un tueur qui va attendre que l'unique coup de cymbale de la partition pour tirer sur l'ambassadeur et le tuer. Mais nous savons aussi qu'une jeune femme qui est dans la salle est au courant de ce projet de meurtre et voudrait à toute force prévenir l'ambassadeur avant qu'il ne soit trop tard. Donc évidemment, nous avons le déroulement de la symphonie qui est complètement harmonieux, des plans de plus en plus rapprochés sur les musiciens, des plans sur les spectateurs qui ne se doutent de rien, sur l'ambassadeur qui ne se doute de rien, sur le tueur qui prépare méthodiquement son travail en abritant un peu son revolver derrière un rideau de velours, et sur cette femme qui ne sait pas par quel moyen prévenir l'ambassadeur. Et donc nous avons là un crescendo qui est prodigieux et qui a quelque chose d'autant plus inéluctable que la musique est inéluctable. Elle est écrite, il y a les partitions qui sont là, rien ne change, ce n'est pas comme dans la vie où une phrase va peut-être être dite qui va changer quelque chose. Et alors nous avons la progression de cette musique, puis nous avons ce fameux coup de cymbale qui arrive. Et cette femme qui a une réaction heureuse à ce moment-là, elle pousse un cri. Et parce qu'elle a poussé un cri, l'ambassadeur s'est penché pour regarder d'où venait ce cri. Et parce qu'il s'est penché, il n'a pas reçu le coup de feu, il n'a pas reçu la balle du tueur. Donc ce cri a sauvé, ce cri qui n'était pas sur la partition, la seule note qui n'était pas sur la partition a sauvé la vie de cet ambassadeur. Voilà.
Donc il faudrait parler, Lydie de Cobert, de la musique, mais aussi peut-être du bruitage, de la bande-son, et même peut-être du silence. Est-ce que le silence est important chez Hitchcock ?
Oui, alors le silence, pas dans cette séquence de l'Alberto.
Pas dans cette séquence-là.
Mais je pourrais quand même vous dire...
Vous voulez dire un mot sur cette séquence ?
Je veux bien dire un mot, oui, parce qu'en fait, c'est prodigieux, parce que c'est vraiment une coïncidence exemplaire. Il y a deux exécutions programmées. Et c'est fabuleux parce que vous avez deux mouvements et ça coïncide tellement que les personnages du film se lèvent sous une pluie d'applaudissements, puis vont s'asseoir. Vous avez l'actrice qui pleure, émue par la musique, peut-on dire. Mais c'est fabuleux. Et puis vous avez surtout la caméra traite, on va dire, la découpe sur la salle comme sur une partition, comme si c'était une partition de musique. Et vous n'avez que des plans fixes qui sont comme des cellules musicales. Ils sont tous différents, sauf celui qui porte sur le cymbalier et qui revient 8 fois. Or, c'est une mesure à 4 temps. Donc, c'est carrément par rapport à la partition.
Alors, un mot sur le silence.
Le cri d'abord.
Le cri d'abord.
Avant le silence, il faut qu'il y ait un cri. Alors, ce cri, je me suis posé longtemps la question, est-ce qu'il est de nature musicale ? Et puis finalement, oui. J'ai confronté ça j'ai présenté ce cri à des musiciens et il paraît que ce serait la voix de Doris Day qui serait mixée sur 3 notes. Mmh. D'accord. Et alors après, bon, c'est très pointu, donc je vais pas en parler ici. Et j'ai fait un rapprochement avec le Todesschrei dans l'opéra de Berg, de Loulou, qui était inachevé au moment justement où Hitchcock a fait la première version.
Oui, parce qu'il faut dire que Hitchcock aimait bien la musique savante et la musique de Berg.
Mais bien
en
sûr.
Particulier.
Et puis en plus, dans cette musique de Berg, il y a l'introduction de choses populaires. Hein. Vous avez le cirque, vous avez le feuilleton, et Hitchcock aussi fait ça. Il met Doris Day dans un salon mondain pour qu'elle chante une chanson de variété. Donc c'est vraiment. Alors Hitchcock ne parle pas de ça. Moi, je ne comprends pas pourquoi, d'ailleurs. Il n'a jamais évoqué Berg, alors que je suis persuadée que c'est une influence forte. Alors, le silence, je vais vous répondre.
Voilà. Oui, en deux mots, parce qu'après, il faut vous dire un mot aussi sur les objets. Vous avez écrit un livre entier sur les objets.
Oui, oui, le silence, il y a du silence très souvent dans ces films. Vous voulez des exemples ?
Oui, bien sûr.
Par exemple, dans L'Inconnu du Nord Express, quand vous avez... je rappelle l'histoire dont tout le monde connaît.
Rapidement, si
rapidement. Vous voulez. Vous avez un échange de crimes qui s'est fait dans un train Nord Express. Et c'est donc un psychopathe, hein, Bruno Anthony, incarné par Robert Walker, qui propose à un joueur de tennis, Guy Hens, incarné par Farley Granja, d'échanger le crime. Il a compris qu'il n'aimait plus sa femme, qu'il avait une liaison. Et il lui propose de venir chez lui assassiner son père. Et lui assassinera donc sa femme. Enfin, pourquoi pas, c'est une bonne idée.
Oui.
Mais donc c'est ce que se dit Guy Hens dans le train. Il plaisante avec lui. Il dit, oh oui, c'est une bonne idée. Ouais, voilà. Et puis l'alibi, c'est le briquet. Bon, on en parlera avec l'objet peut-être. Mais voilà qu'il assassine la femme Et donc, Guy n'a plus qu'à aller chez lui assassiner son père. Donc, le spectateur pense qu'il va le faire. En fait, on le voit préparer un revolver, le mettre dans sa poche. Tout ça, c'est dans le silence. Et puis, il s'introduit dans la maison avec une lampe torche. Et il a un plan. Et donc, il y a une succession de plans. On se retrouve en bas d'un escalier, je suis désolée, avec un gros chien dog qui garde la maison. Et là, c'est totalement silencieux. Alors, marche par marche, à pas feutrés, la montée d'escalier, je reviens à l'escalier en boucle, voilà. Et il arrive à la chambre du père. Alors, on se dit, bah, il va tuer le père finalement, est-ce qu'il va le faire? Donc, toujours pas de bruit, rien, silence total. Il ouvre la porte, il y a une ombre dans le lit, et l'ombre ouvre la lumière, et c'est le psychopathe à la place du père.
Et donc, le silence sert à quoi, selon vous?
Alors, le silence sert justement à mettre le spectateur en haleine, à ne pas le distraire sur autre chose. Et puis, un silence...
C'est un suspense, finalement, qui est créé par le silence aussi.
Voilà. Le silence et l'escalier, ça va bien ensemble. Hein, puisque vous avez encore ça dans Frenzy, avec la descente. Et puis, vous avez ça dans la célèbre scène de musée du rideau déchiré. Bon, c'est une scène dans un musée qui est totalement silencieuse, si ce n'est qu'elle est rythmée par le bruit des pas. Et là encore, c'est rythmique, parce que vous avez des réponses de pas, et vous avez toute une dynamique rythmique qui est créée dans la poursuite entre les deux personnages, les deux protagonistes de l'histoire.
Ouais. Alors les objets, justement, venons-y. Il y a une véritable passion, écrivez-vous, d'Hitchcock pour les objets. Est-ce que c'est pas le cas pour l'ensemble des cinéastes? Parce qu'on filme toujours quelque chose. Alors vous notez un certain nombre de gros plans sur des objets plus ou moins ordinaires, des bougies, des bouteilles, des chapeaux, des clés, des fruits, des instruments de musique, des lettres, des pantoufles, des partitions, des pots, des tableaux. Est-ce que pour vous, ils sont vraiment filmés en tant que tels ou est-ce que ils font partie du décor?
Non, ils sont filmés en tant que tels. Déjà, il y a énormément de films qui s'ouvrent sur un objet, sur un gros plan d'objet. Vous prenons Marnie, évidemment, c'est l'image la plus célèbre. Ça s'ouvre sur le sac jaune cadré en très gros plan. Et ce sac, ce sac suffit à exprimer tout le film. Il pourrait y avoir que le sac pendant 2 heures.
Pourquoi?
Alors, ce sac est gonflé. Que contient-il? Bon, il a une forme vulvaire qui fait penser quand même à la forme féminine, intime. Mais en même temps, cette connotation sexuelle, elle est invalidée par une couleur très acide. Donc après, on apprendra que cette femme très féminine et attirante est frigide. Ensuite, elle s'éloigne, on la voit de dos, mais alors la perspective et les fuyantes ne quittent pas le sac. Le point de fuite est sur le sac, toute la durée du trajet sur le quai. Et puis ensuite, vous avez une deuxième séquence, un deuxième plan séquence, et là vous avez le sac qui est vidé. Donc Marnie vide son sac, et il contient, on sait tout là avec le sac, hein, des cartes d'identité, des fausses adresses, etc.
C'est une représentation des femmes aussi, à travers cette manière de filmer le sac, selon vous?
Oui, c'est une représentation. D'ailleurs, si vous prenez la scène de du vol, hein, qui est très belle aussi dans Marnie, il y a un autre sac de femme qui est filmé, c'est celui de la secrétaire qui est à côté de Marnie. Et là, le sac contient du rouge à lèvres, du parfum, des choses très féminines. Alors que le sac de Marnie contient un autre sac qui lui-même contient d'autres éléments qui vont lui permettre de cambrioler les Rutland. Donc bien sûr, ce sac, il est adapté au personnage.
Et il y a beaucoup d'érotisation des objets, évidemment, les clés dans les serrures.
Oui, bien sûr. Et puis l'objectif, le téléobjectif aussi de Jeff, vous en parliez tout à l'heure avec
vous
la fenêtre. Le téléobjectif, en fait, lui permet de pénétrer, son membre étant inactif, il pénètre chez les voisins avec son grand téléobjectif. C'est quand même le voyeurisme incarné. Et d'ailleurs, vous avez comme des natures mortes avec les objets chez Hitchcock. Plus que chez d'autres cinéastes, hein, ouais. Je pense. Prenons par exemple les deux repas. Le repas de Jeff, le repas préparé par Kelly. Vous vous souvenez, celui de Jeff, c'est... Il y a un triangle, un cylindre et un deuxième petit cylindre. Un verre de lait, un téléobjectif et une assiette avec un petit bout de pain. Et qui dépasse d'ailleurs, qui fait penser à la peinture de Chardin ou d'autres maîtres. Et celui de Lisa est totalement exubérant. Un crabe qui vous regarde, une sauce infecte, un double motif, etc.
Et qu'est-ce que vous en concluez alors?
J'en conclue qu'Hitchcock aime à l'esprit très synthétique et qu'en fait pour lui un objet est tellement parlant qu'il peut aller jusqu'à ensorceler, jusqu'à fasciner et prendre un caractère vivant. Les clés dans Le Crime étaient presque parfaites. Il y a 4 clés en jeu et il y a 3 clés très actives qui sont comme 3 fées. Il n'y a qu'une bonne clé dans les trois. Les deux clés vont compromettre, enfin vont accuser. Et la clé du personnage principal, donc de Kelly, elle va rester fidèle à sa maîtresse. Elle ne va pas quitter la marche, voilà, le tapis de la cinquième marche, encore l'escalier.
Et la corde, parce que la corde, c'est aussi un motif qu'on retrouve dans beaucoup de films, et la corde ne veut pas dire la même chose.
Non, voilà, c'est dans fabuleux, tous les films. Ça. Voilà. Alors, la corde, par exemple, dans Murder, c'est un instrument pour se suicider, puisque vous avez Fane qui se jette dans le vide en s'étranglant, au lieu de faire son numéro de trapèze habituel. Bon, dans Rebecca, la corde va servir à attacher Jasper, le chien. Par l'héroïne, elle va s'attacher le chien à elle, en fait, en lui donnant une laisse. Oui. Bon, dans la corde, évidemment, elle sert à étrangler, mais elle sert aussi à tenir les livres.
Oui, alors ça, c'est un peu pervers, d'ailleurs.
Ça, c'est totalement perverti.
Vous nous expliquez pourquoi ?
Alors, j'explique pourquoi. Bon, rapidement, bien que vous connaissiez, hein, deux jeunes gens désœuvrés étranglent un troisième copain parce qu'ils ne méritent pas de vivre, étant insignifiants. Et donc, voilà, la corde, elle est rangée dans... Le cadavre est mis dans un coffre, bah encore un objet. Ce coffre...
Mais il faut bien des objets aussi à filmer, non ?
Ah non, mais là, c'est particulier quand même. Le coffre va être recouvert par une nappe en dentelle pour faire un repas. Mais en même temps, sur ce coffre sont mis des objets religieux. Mm-hmm. Donc, le pain, le vin... Le poulet, enfin, et des chandeliers de chaque côté, des fleurs fraîches, la vie coupée, etc. Et donc, cette corde, après, par le cynique personnage, Brandon, qui est John Dahl, hein, je pense, et elle va servir à entourer les livres prêtés au père du cadavre, au père du jeune homme qui a été tué. Donc, quel cynisme !
Oui, quel cynisme, et puis vous insistez aussi sur le côté intello, justement, du meurtre, puisque oui. La corde entoure les livres.
Les livres, en plus, voilà. Voilà. Et à la fin, on retrouve la corde dans la poche de Rupert. Oh, permettez-moi de dire un mot sur cette dernière séquence.
Allez-y.
Alors là, c'est vraiment d'une musicalité incroyable. Bon, tout le long du film, vous avez la musique de Poulenc, le premier des mouvements perpétuels, hein, qui dure 1 minute 18. Et dans ce, même si on connaît pas la musique, à la main gauche, il y a un ostinato. Un ostinato, c'est-à-dire, c'est une répétition constante pendant 1 minute 18 de la même formule musicale. Mmh. Et évidemment, le personnage qui a tué, l'un des deux, est pianiste. Et la corde, c'est quand même l'élément accusateur. Bon. Et puis, le philosophe incarné par Stewart, qui était là, revient, il a compris qu'il y avait quelque chose de louche. Et à un moment, il va sortir la corde de sa poche. Et là, vous avez un jeu de lumière. Mais alors, ce jeu de lumière, c'est vraiment la formule musicale transcrite en lumière. Et ça commence par le vert. Alors, vous avez vert, blanc, rouge, blanc, vert, blanc, rouge, blanc. Mais vraiment, et c'est vraiment la partition de musique. Je l'ai montré à des musiciens de métier. Ils m'ont dit, c'est incroyable. Et ça, je vous assure qu'Hitchcock n'en a jamais parlé. C'est affolant. Alors que c'est une transcription musicale complète. Et en plus, il parle de son éclairagiste. Et attendez, il en parle comme d'un organiste. Il dit, c'était un organiste de lumière. Donc, c'est clair quand même.
Il y a d'ailleurs des objets lumineux très importants chez Hitchcock, comme par exemple les abat-jours, les ampoules, les bougies, les enseignes lumineuses, les lampes, les torches électriques.
Il y en a tout le temps, oui, il y en a tout le temps. Dans tous les films, dès le départ, hein, The Lodger, le locataire, vous avez les néons. Mais dans les 39 marches aussi, vous avez... Le film s'ouvre sur un jeu de lumière, sur Music Hall, qui défile en travelling latéral, comme ça. Vous avez de nombreux films comme ça, dans Vertigo.
Eh ben merci Lydie de Cobert de nous apprendre à mieux regarder Hitchcock et à le regarder vraiment précisément. Pour aller plus loin sur tous les sujets dont on a parlé aujourd'hui avec vous, on peut se procurer aux éditions L'Harmattan vos divers ouvrages, comme par exemple la peinture à l'œuvre dans le cinéma d'Alfred Hitchcock ou encore la corde musicale d'Alfred Hitchcock. C'était La Compagnie des œuvres, une émission de Digne Epinaud, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Hélène Rivière et Déborah Dagobert. Notre émission repart lundi prochain sur de nouvelles pistes, celle des destins terribles de ceux de 14, les poilus dont faisait partie Maurice Genevoix, l'auteur presque panthéonisé dont nous parlerons toute la semaine. Et dans un instant, on retrouve les sciences.